des gros atouts, un des moyens les plus importants de la révolution étudiante. Il a été occupé tout de suite par les militants, et qui n'étaient pas des téléphonistes professionnels, et par conséquent, c'était une époque où il fallait encore passer les communications, il y avait très peu de lignes directes, et alors on n'arrivait pas à téléphoner, parce qu'il pouvait bien... Il branchait sur le correspondant, mais il n'arrivait pas à vous brancher sur lui. Alors on se servait du téléphoniste pour échanger. C'est ainsi que j'ai pu correspondre avec mon épouse, qui se trouvait à ce moment-là dans le Midi. Et alors je parlais au téléphoniste, qui était d'ailleurs du Midi lui aussi, un étudiant. Et je lui disais, ben écoutez, dites donc cela à ma femme. Alors il appelait ma femme et puis il me rappelait moi-même. Et c'est comme ça que nous fonctionnions, que nous entretenions des relations. Et ce service téléphonique a dépensé en un mois les crédits de 10 ans de téléphone. Ce qui a plongé dans la désolation les responsables de l'administration après, lorsque la Sorbonne a été ouverte. C'est Mademoiselle Bonnefoy, secrétaire générale de la faculté des lettres, qui m'a donné cette information. On a téléphoné dans le monde entier. Car la Sorbonne est une centrale révolutionnaire française, mais aussi internationale. On a entretenu des relations avec les mouvements révolutionnaires du monde entier. Alors, que faisait-on dans cette Sorbonne? Il y avait le travail du jour et le travail de nuit, enfin les occupations de nuit. Alors, le jour, il y avait les commissions qui d'ailleurs se multipliaient, il y en avait d'abord deux, puis cinq, puis dix, bon, ces commissions fonctionnaient sans arrêt. Il y avait les assemblées générales, organisées également par discipline, histoire, philosophie, où l'on votait sur les projets élaborés par les commissions. Projet de réforme de l'université. En effet, dans ces assemblées générales, on élaborait la réforme de l'université française. Et l'université française telle qu'elle est aujourd'hui est sortie de là. C'était bien sûr le travail de ces commissions et le travail de ces assemblées était préparé par les permanents du Parti communiste ou de la Ligue révolutionnaire. Les gens de la JEC y participaient, mais ils n'avaient qu'un rôle, un rôle secondaire. La nuit, eh bien, c'était la deuxième partie du temps. Elle n'appartenait pas aux communistes, qui la dédaignaient un peu. Elle appartenait aux autres mouvements, les trotskistes, la Fédération des étudiants révolutionnaires, les anarchistes, le mouvement du 22 mars. On travaillait aussi la nuit, mais on travaillait d'une façon différente. On parlait. Dans les amphithéâtres. Je me souviens, un jour, dans l'amphi Descartes, on a parlé jusqu'à 4 heures du matin. C'était plein. L'amphi était plein, les orateurs se relayaient et parlaient, sans arrêt. Il faut dire que ces révolutionnaires étaient jeunes, et donc ne se fatiguaient jamais. Et pouvaient donc parler jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin. Le grand amphithéâtre de la Sorbonne contient 2500 places. Et il était réservé aux grandes manifestations de nuit, aux ténors. Il y a eu par exemple Jean-Paul Sartre, qui est venu une nuit, et qui a tenu la scène pendant près de 3 heures. Il y a eu Cohn-Bendit, avant son expulsion et après son expulsion. Ayant été expulsé, en effet, il est revenu. Il est revenu et le soir de son retour, il a prononcé un grand discours dans l'amphi, dans le grand amphi de la Sorbonne. Cet amphi servait aussi de tribune libre, car devant 2500 personnes, n'importe qui pouvait s'exprimer et dire n'importe quoi. Là, c'est vraiment un des aspects les plus extraordinaires de cette révolte de mai 68. On pouvait dire n'importe quoi devant des assistances considérables. C'était la dérision de la démocratie, si je puis dire. Je crois qu'Aristophane aurait pu s'inspirer de tels spectacles. J'ai entendu parler de tout, dans les termes les plus ahurissants, d'aliénation sexuelle, de l'imagination qui prenait ou qui ne prenait pas le pouvoir, de créativité, de conflits des générations, enfin de tout, d'une infinité de choses. Et j'ai même vu une nuit, oui, j'ai vu une nuit à 2 heures du matin, un spectacle étonnant. L'assistance s'était endormie. Le grand amphithéâtre était figé par le sommeil, peut-être parce qu'un orateur avait manqué de voix, peut-être parce que le grand piano de concert qui était utilisé s'était tu. Enfin, j'ai vu là près de 2000 étudiants qui n'ayant pas eu le courage d'aller se coucher, de partir, de rentrer chez leurs parents, étaient restés là. Alors les lumières étaient bien sûr restées allumées, et l'amphithéâtre était comme figé par le sommeil. Et au bout d'un certain temps, un étudiant est venu se mettre au piano et a joué la passionnata. C'était quand même un spectacle. Ce piano a joué un rôle aussi. On l'avait d'abord transporté dans la cour. Puis c'était un moine mais plus vieux. Alors soucieux quand même de préserver le patrimoine, on a rentré le piano et on l'a remis dans le grand amphi. Et j'ai entendu là de véritables artistes, certains soirs, avant les assemblées générales ou après, ou même quelquefois pendant. Et il faut dire que tout n'était pas antipathique dans cette affaire. Peut-être parce que c'était la jeunesse qui était là. Après tout, il y avait la révolution, mais il y avait aussi la jeunesse. Alors, je ne vous parle pas des autres aspects de la vie nocturne, vous les devinez aisément. La Sorbonne était devenue un véritable lupanar, et certaines parties du bâtiment étaient infréquentables. Il y avait donc deux Sorbonnes. Il y avait la Sorbonne diurne et la Sorbonne nocturne. Mais toutes les deux également pleines de monde. Et il y a un mot italien qui montre bien ça, c'est le mot affollato. Pour dire c'est plein, il y a beaucoup de monde, ça grouille. Eh bien, je trouve que ce terme convenait parfaitement à la Sorbonne pendant l'occupation. C'était une foule innombrable et prise de vertige. On ne dormait pas, ou on dormait peu. Ou bien alors on dormait à partir de 5 heures du matin jusqu'à 10 heures. Alors si vous vouliez trouver la Sorbonne calme, vous alliez à 9 heures. Alors là, il ne se passait rien. Si le mouvement avait été un mouvement de droite, alors là, sans doute, c'était différent. On se serait levé à 7 heures du matin, exercice, parcours du combattant, toilette. Là, c'était très différent. C'était la crasse, on croupissait sur place, on se levait à des heures impossibles, on ne se lavait pas. L'odeur était abominable dans ces lieux. C'était aussi très mélangé quant à l'assistance. Il y avait des étudiants, peu d'ouvriers. On amenait quelquefois quelques ouvriers pour les montrer. Des ouvriers jeunes qui se laissaient séduire par les discours des étudiants, mais surtout des étudiants et bien sûr la pègre. Il y avait des voyous, il y avait ce qu'on appelait les enragés, qui n'étaient pas du tout enragés d'ailleurs, de pauvres types qu'on avait recrutés dans la zone. Et qui se donnaient des airs terribles, mais qui étaient des froussards. De cette catégorie faisaient partie ce qu'on appelait les catanguais. Ils s'étaient ainsi baptisés. C'était quelques voyous, de pauvres minables, ou pas méchants, qui arboraient des armes, des couteaux, des tromblons, et qui de temps en temps sortaient et prenaient des airs menaçants face aux gardes républicains, aux CRS. Mais jamais je n'ai vu le moindre affrontement. C'était des plaisantins. Mais enfin, il y avait surtout des étudiants. Quant aux professeurs, les professeurs, c'est très simple, ils étaient partis. Ils étaient rentrés chez eux. Beaucoup avaient des livres en train, des travaux, et ils étaient partis à la campagne, dans leur résidence secondaire, ou tout simplement dans leur résidence principale, assez éloignée des lieux horribles, et ils avaient disparu. Y compris d'ailleurs les principaux responsables. Je me souviens, le doyen à ce moment-là était Dury, un littéraire, et son assesseur principal était Durosel, son premier assesseur, Jean-Baptiste Durosel, historien connu. Et Durosel est devenu introuvable à partir du moment où la Sorbonne a été occupée. De temps en temps, on essayait de lui téléphoner pour lui dire, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut déménager telle ou telle bibliothèque? Est-ce qu'il faut prendre soin de ces documents? Et on n'arrivait pas à le joindre. Et il était introuvable. J'ai su plus tard qu'il s'était fait mettre, il avait fait mettre son téléphone sur la liste rouge, de façon à ne pas continuer tranquillement ses travaux. Voilà ce qu'était la Sorbonne occupée. Alors, bien sûr, la vie de cette Sorbonne était rythmée par les manifestations. On manifestait à peu près un soir sur trois ou un soir sur quatre. Alors, en quoi ça consistait-il? Bien, cette foule qui était à l'intérieur sortait. Elle sortait et se répandait dans Paris et essayait d'agacer les policiers, les gardes républicains, leur jetant des pierres. De temps en temps, on poussait jusqu'à la Seine et quelquefois, on passait la Seine. Alors là, on allait mettre le feu, on faisait semblant de mettre le feu au beau quartier. On a d'ailleurs mis une fois, un soir, le feu à la Bourse. La police avait reçu des instructions, surtout ne pas exciter les étudiants, ne pas trop les mécontenter. Alors la nuit, elle était stoïque, elle ne bougeait pas. On se contentait de tenir les positions. Et puis, vers 4 heures du matin, lorsque les manifestants rentraient à la Sorbonne, épuisés, rentraient à la Sorbonne chez eux, alors à ce moment-là, la police nettoyait le quartier latin. Elle arrêtait tous les types qui traînaient, on les faisait monter dans les camions. Ensuite, elle rangeait les voitures sur le bord de la chaussée, parce que pour permettre la circulation à partir de 7h-8h. Elle comptait les voitures brûlées, et quelquefois il y en avait des deux côtés. Je me souviens d'un matin, la rue Gay-Lussac était bordée de deux côtés par des squelettes, des carcasses de voitures. Une autre fois, c'était la place du Panthéon. Mais croyez-vous que la nuit, on aurait essayé d'empêcher ces incendies? Pas du tout. On laissait brûler les voitures. Et puis alors, le lendemain, on mettait un peu d'ordre. De temps en temps aussi, la police envoyait quelques grenades lacrymogènes à l'intérieur de la cour. Pour montrer qu'elle était là, et qu'après tout, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Voilà ce qui se passait dans la Sorbonne occupée. Alors revenons maintenant au mouvement de la grève générale. La grève générale, c'est le deuxième aspect de cette révolution. Cette grève générale a été d'une ampleur extraordinaire et surtout s'est développée très rapidement. Elle a commencé le 13 mai à Cléon et à Sud Aviation à Nantes. Et elle a gagné en quelques jours le pays tout entier. Elle atteint son point culminant le jeudi 24 mai. Ce jour-là, il y a 12 millions de Français en grève. On assiste à un phénomène de contagion extraordinaire. La population entière décide de se mettre en vacances et de pique-niquer sur les lieux du travail. C'est ça. Parce que cette grève, c'est une grève sur le tas. La plupart du temps, on reste sur les lieux du travail. Alors, on voit des chantiers, par exemple, de construction, les ouvriers sont là, mais il y en a certains qui jouent de l'harmonica, d'autres qui mangent des sandwichs au pâté, enfin, d'autres qui lisent des proclamations révolutionnaires. On occupe les lieux du travail. Eh bien, cette grève-là a quelque chose d'irrésistible. On a de la dignité, puisqu'on est sur le lieu du travail. Mais en même temps, on ne fait rien, ce qui est également satisfaisant. Alors les Français sont contents, ils obtiennent enfin la jouissance suprême, c'est-à-dire le droit de ne rien faire avec dignité, de ne rien faire sur les lieux du travail. Il y a là quelque chose d'exaltant. Le lieu du travail est sacré. Il est sacré, il est considéré avec respect, il est honoré par ces manifestations révolutionnaires, mais le travail, lui, n'est pas sacré. Car le travail est une aliénation. Il aliène l'homme. Si l'homme travaille, il n'est plus lui-même. Alors pourquoi travailler? Il y a une contradiction, vous voyez, de ce psychodrame, si je puis dire. Quelque chose de bizarre. Bien sûr, nul ne réfléchit à tout cela, personne n'y songe. Il y a certains endroits en France qui ont connu alors plus que la grève, mais la révolution. La ville de Nantes, par exemple, qui a été dirigé pendant quelques jours par un comité révolutionnaire. Ce comité révolutionnaire distribuait les bons d'essence et contrôlait véritablement la ville. Les services des transports, les services d'alimentation en eau, en gaz, en électricité, les standards téléphoniques. Nantes a été, pendant quelques jours, une ville livrée au Parti communiste et à ses alliés. Et cela, bien entendu, les journaux n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de journaux. Il n'y avait pas de journaux. Quant aux radios, elles fonctionnaient, bien sûr, mais elles se consacraient surtout à raconter les héroïques affrontements des étudiants avec la police, en les dramatisant le plus possible. C'était tous les jours Verdun ou les Éparges. Les étudiants attaquent, la police riposte, affrontement rue Gay-Lussac, bataille rangée, place du Panthéon. Voilà ce que nous racontaient à longueur de journée les médias, pour apitoyer bien sûr l'opinion publique, pour faire croire que la police était une force de réaction impitoyable aux ordres d'une dictature farouche. Voilà ce à quoi étaient occupés les postes périphériques comme Europe numéro 1 ou Radio Luxembourg. J'ai un de mes amis m'a raconté cette chose étonnante, il habite encore place du Panthéon. Alors un beau matin, c'était vers le 20 mai, je crois, il était à sa fenêtre et il écoutait Europe numéro 1. Et il entend le speaker raconter toute une bataille qui se déroulait, d'après le speaker, sous ses yeux, n'est-ce pas, dans la place. Alors la place était d'une tranquillité parfaite. Alors il a téléphoné, parce qu'il avait le téléphone marchait, il a téléphoné à ce poste en, en leur demandant explication et en annonçant qu'il allait leur supprimer ces annonces publicitaires, parce que c'était un gros annonceur d'Europe numéro 1, en leur disant que puisqu'ils annonçaient ainsi les événements, il n'était pas la peine qu'ils bénéficient de sa publicité. J'ai entendu raconter plusieurs histoires de cette mouture, de cette farine. Voilà donc ce qui se passait, les deux mouvements ouvriers et étudiants cherchaient à se rejoindre, ou plus exactement, le mouvement étudiant a essayé pendant quelques jours de rejoindre le mouvement ouvrier. Ce n'a pas été facile. Les étudiants ont envoyé des émissaires, des missionnaires, à Flins et à Billancourt. Les ouvriers les ont reçus, mais ne les ont pas laissés entrer dans les usines. D'ailleurs, ces barbus, bavards, ces faux prolétaires, ces dialecticiens sales et hirsutes inquiétaient les ouvriers. Quelquefois, des ouvriers se laissaient traîner jusqu'à la Sorbonne, mais jamais les ouvriers n'ont laissé entrer les étudiants dans leurs usines, sur leur propre lieu de travail. De sorte qu'il n'y a pas eu de conjonction. Il y avait d'un côté le spectacle, c'était la Sorbonne occupée, et de l'autre, la revendication pour les salaires. Car évidemment, les syndicats ont exploité ce mouvement pour, en faveur de leurs conditions de vie et de l'augmentation de leurs salaires. Augmentation qu'ils ont obtenue, vous le savez, par les accords de Grenelle le 27 mai. Et ce sont ces accords de Grenelle du 27 mai qui ont mis fin à la grève ouvrière. Et qui ont été, si vous voulez, le commencement de la fin. Je viens à la troisième séquence. La troisième séquence, c'est la vacance du pouvoir. C'est une séquence brève et très inquiétante. Le 24 mai, De Gaulle a prononcé une allocution. 24 mai, nous sommes donc quelques jours avant les accords de Grenelle. La Sorbonne est occupée depuis une dizaine de jours. Et vraiment, on a l'impression que le mouvement ne va pas s'arrêter. Alors, De Gaulle parle le 24 mai au soir. Alors là, j'y étais, n'est-ce pas? J'ai entendu son allocution dans la cour de la Sorbonne. Il y avait des petits postes radio partout. Et les étudiants écoutaient ça. Voici cette allocution. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée. Je ne peux pas parler comme De Gaulle. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. Tout le monde comprend, personne ne comprenait. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. Donc, c'est la récupération. C'est une révolution. Par conséquent, nous allons lui donner suite. Et tout indique que cette mutation doit comporter une participation plus étendue de chacun à la marche et au résultat de l'activité qui le concerne directement. Alors ça, c'est le thème favori de Gaulle, c'est la participation. Certes, dans la situation bouleversée d'aujourd'hui, le premier devoir de l'État, c'est d'assurer en dépit de tout l'existence élémentaire du pays, en effet, ainsi que l'ordre public, en effet. Il le fait. Alors là, c'est extraordinaire. On pense qu'on ne pouvait plus circuler. J'habitais à Versailles et j'allais tous les jours à Paris à pied ou en autostop. Et à partir d'un certain moment, ça devenait impossible parce que les gens n'avaient plus d'essence. Alors, en fait de marche du pays, en fait d'assurer la marche du pays, c'est aussi d'aider à la remise en marche, notamment en prenant les contacts qui pourraient la faciliter. Le gouvernement y est prêt. Bon, alors, je passe. C'est pourquoi la crise de l'université, crise provoquée par l'impuissance de ce grand corps à s'adapter aux nécessités modernes de la nation, en même temps qu'au rôle et à l'emploi des jeunes, a par contagion déclenché dans beaucoup d'autres milieux une marée de désordre ou d'abandon ou d'arrêt de travail. La responsabilité de la crise, c'est l'université elle-même qui doit la porter. C'est l'université qui est responsable, en quelque sorte, de la crise qui la frappe. Alors, quelques considérations sur la reconstruction nécessaire de l'université en fonction non pas de ses séculaires habitudes, mais des besoins réels de l'évolution du pays et des débouchés effectifs de la jeunesse étudiante dans la société moderne. À ces propos, mériterait d'être encadré. Tout le destin, tout le sort de notre communauté universitaire est dans ces quelques paroles. Française, français. Alors, on annonce un vote, parce que De Gaulle annonce les élections de juin. Au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote. Au cas où... Alors, Au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Donc, si vous votez mal, je m'en vais. C'est le chantage au départ, dont De Gaulle, vous savez, a usé et abusé pendant des décennies. Si par un oui massif, bien sûr, massif, vous m'exprimez votre confiance, j'entreprendrai avec les pouvoirs publics, et je l'espère, le concours de tous ceux qui veulent servir l'intérêt commun, de faire changer partout où il le faut des structures étroites et périmées, et ouvrir plus largement la route au sang nouveau de la France. Vive la République, vive la France. Voilà. Alors, ce discours a fait un effet déplorable. Déplorable. Chez les étudiants. Les étudiants attendaient des réformes immédiates. La transformation de l'université. Les ouvriers attendaient une revalorisation de leur salaire, l'annonce de la revalorisation de leur salaire. Et De Gaulle n'annonce rien de tout ça le 24 mai au soir. Il fait un grand discours, il parle de participation, il dit que l'université n'est pas adaptée. Bon. Mais tout ça, ce ne sont pas des mesures concrètes. Donc, effet déplorable, il donne une impression d'une totale incapacité. Et alors, le mouvement ne fait que croître et grandir. C'est bien que le 29 mai, à 11h15, De Gaulle quitte l'Élysée en hélicoptère. Dans l'après-midi, vers 3h, le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot, demande à la secrétaire particulière du général la faveur d'un entretien. Et la secrétaire lui dit, mais le général est parti. Donc, le secrétaire général de l'Élysée, à 3h de l'après-midi, ne savait pas que De Gaulle avait quitté l'Élysée. Des ministres téléphonent dans l'après-midi. Est-ce que nous pourrions parler au chef de l'État est-ce que le chef de l'État pourrait signer tel papier? Mais il n'est pas là, il est parti. Mais où est-il? Je n'en sais rien. Le secrétaire général de l'Élysée, le secrétaire général de la présidence de la République, c'est lui-même qui me l'a dit, il a d'abord ignoré que De Gaulle était parti, et ensuite, dans l'après-midi, il a découvert son absence, mais il ne savait pas où il était. Alors, il a eu un moment, évidemment, d'effarement. Il s'est demandé ce qui se passait. Il m'a dit, j'étais sur le point de rentrer chez moi, et puis de me laver les mains de cette affaire. Le général revient le lendemain à 12h25, toujours en hélicoptère. Et à ce moment-là, il fait un discours très ferme. Il fait un discours très ferme en disant que c'en est fini, qu'on va mettre de l'ordre, que les contestataires, les révolutionnaires seront mis au pas, et qu'il prend vraiment la tête des opérations, qu'on va voir enfin ce qu'on va voir, que l'État ne supportera plus le désordre et qu'il va par tous les moyens essayer de remettre le pays en marche. Ceci se passe dans l'après-midi du 30 mai. Discours très ferme, donc très bien accueilli, non pas par les étudiants, parce que les étudiants sont toujours dans le même état d'esprit, mais dans une certaine mesure par les ouvriers, puisque le 27 mai ont eu lieu les accords de Grenelle revalorisant les salaires, et surtout dans l'opinion publique. C'était le discours que De Gaulle aurait dû prononcer dès le 24. Mais il a attendu le 30 pour le prononcer. Le lendemain, les partisans de l'ordre, non, le soir même du 30 mai, les partisans de l'ordre manifestent en foule dans toutes les villes de France. D'abord à Paris. À Paris, énorme défilé sur les Champs-Élysées. Tous les Parisiens se précipitent dans la rue pour manifester et proclamer leur soutien au général de Gaulle et au pouvoir dans sa lutte contre le chaos, contre la révolution. Et cela s'est vu dans toutes les villes de France. Tous les gens de bonne volonté, tous les braves gens inquiets du désordre, affolés par le spectacle de la révolution, descendent dans la rue et crient leur désir de voir revenir l'ordre et la sécurité. Le 16 juin, la Sorbonne est évacuée. Elle est évacuée par la police. Et le 25 et 30 juin, les élections législatives redonnent au pouvoir en place une écrasante majorité. C'est une opération, en somme, qui a réussi. Alors, il y a donc eu trois phases. Il y a eu la révolte étudiante, il y a eu la grève générale, il y a eu la vacance du pouvoir. Alors, il est possible d'expliquer chaque séquence séparément. Est-ce que vous souhaitez que j'achève maintenant, mon père? Oui? Oui? C'est ça. Alors, ce sera la partie, brève partie d'explication. Alors, je voudrais maintenant essayer de donner quelques explications. Nous avons donc distingué trois périodes, trois séquences. Le monde étudiant, la grève générale, la vacance du pouvoir. Il est possible de donner une explication pour chacune de ces étapes. On peut expliquer la révolte du monde étudiant par l'inflation des effectifs. Il y avait 200 000 étudiants en 1958. 10 ans plus tard, 600 000. Pour les mêmes bâtiments, pour les mêmes locaux, et pour un personnel enseignant dont l'effectif n'avait guère augmenté. Les amphis, les salles étaient donc archibondées, les conditions de travail n'étaient pas bonnes, les locaux inadaptés, et ces circonstances ont eu très certainement une influence importante. Elles ont d'ailleurs été exploitées par la propagande des mouvements de gauche et par les assistants et professeurs communistes dans les différentes universités. À la faculté des lettres de Paris, les assistants communistes ont joué un rôle très important, faisant valoir auprès des étudiants les difficultés de travail, les excitant contre les autorités universitaires et contre le pouvoir. Certains de ces assistants communistes ont eu ensuite des carrières très intéressantes et sont maintenant au sommet de l'État. Il y a cependant des causes plus profondes, plus générales. La principale, c'est le désarroi de cette jeunesse de mai 68. Cette génération est arrivée à l'âge d'homme lorsque, à la fois, l'Église et la patrie venaient à manquer. L'Église, il ne faut pas oublier que la révolution de l'Église a commencé s'est manifestée au grand jour en 61-62. Et la patrie, mais la patrie a été trahie dans les mêmes années, entre 1960 et 1962, à cause de l'abandon de l'Algérie française. Et à cause de la trahison, n'est-ce pas, par le pouvoir politique de la population française d'Algérie et de l'armée. Alors, ces circonstances ont marqué profondément la génération de mai 68. Ils ne s'en sont peut-être pas vraiment rendus compte, mais ils ont été profondément marqués. Il y a une espèce de protestation inconsciente, sans doute, chez la plupart, consciente chez un petit nombre, peut-être, une protestation contre ces abandons, contre cette trahison. Nous avons perdu nos protecteurs naturels, nous avons perdu nos raisons de vivre. Et il y avait quelque chose de dramatique, assurément, dans ce mouvement de mai 68. Quelque chose de dramatique, et nulle âme bien née n'a pu ne pas sentir cela. Beaucoup d'entre nous ont été frappés par cette souffrance. Il ne s'agit pas, c'est pas de souffrance révolutionnaire, de protestation contre les injustices de l'impérialisme américain. Mais nous sentions bien que chez beaucoup de ces jeunes, il y avait une souffrance, la souffrance des abandonnés. Beaucoup d'entre eux se rendaient compte confusément que l'homme ne vit pas seulement de pain. Or, nous étions à l'apogée de la civilisation matérialiste engendrée par la prospérité économique des années 50. On vivait bien, la bourgeoisie menait grand train, on dépensait, on construisait, on achetait, on faisait semblant d'élever ses enfants, mais on ne les élevait pas. Et d'où ces innombrables aigris, ces innombrables enfants aigris et amers des bourgeois de 68. Combien de fois nous avons vu de ces jeunes issus de familles bourgeoises profondément révoltés contre leurs parents. Et cette révolte n'était pas une révolte à caractère révolutionnaire, c'était une protestation contre l'égoïsme de ses parents, contre le matérialisme de ses parents. Je viens maintenant à la grève générale. La grève générale, elle s'explique au départ, bien sûr, par les calculs des grandes centrales. Les grandes centrales ont jugé que l'occasion était bonne pour obtenir des avantages. Et puis ensuite, par la contagion. La contagion. Le nombre des grévistes a d'ailleurs été très inférieur au nombre de ceux qui ont été obligés de cesser le travail. Il y a eu les grévistes spontanés, volontaires, et les innombrables grévistes qui n'ont pas pu faire autrement que de faire la grève. Et qui s'y sont résignés d'ailleurs assez facilement, parce qu'on leur payait leur journée de grève. Il a été entendu dès le départ que les journées de grève seraient payées. Dans les usines, mais aussi dans l'université. C'est ainsi que j'ai vu à la porte de la Société Générale, de l'agence de la Société Générale qui se trouve près de la Sorbonne, une queue de presque de 150 ou 200 assistants, professeurs, attendant leur traitement. Le gouvernement avait annoncé que les traitements seraient directement payés à cette agence de la Société Générale. Alors on faisait la queue et tous les professeurs et assistants grévistes étaient là et attendaient pour toucher leur traitement. Cette contagion a donc été facilitée par le laxisme du pouvoir. Quant à la vacance du pouvoir, comment l'expliquer ? C'est un phénomène très, très inquiétant. Il n'y a pas eu d'État pendant 24 heures. Il n'y a eu personne à la tête de l'État. De Gaulle avait disparu. Où était-il ? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous le savez. Il était chez Massu. Il était au quartier général des forces françaises en Allemagne. Et il était allé demander l'appui de l'armée. Massu a raconté lui-même ce qui s'est passé. De Gaulle avait besoin de l'appui de l'armée pour réagir, pour pouvoir contrer le mouvement révolutionnaire. Il ne pouvait rien faire sans elle. Alors Massu le lui a promis, mais il a négocié. Et De Gaulle a été obligé d'accorder en échange l'amnistie des généraux de l'Algérie française. Et il a été obligé de donner cela en échange. Massu a donc estimé qu'il avait fait un assez bon marché. Et cela prouve l'état lamentable dans lequel se trouvait De Gaulle. S'il n'avait pas été dans cette situation lamentable, il n'aurait jamais accordé l'amnistie, car vous savez avec quelle haine, quelle méchanceté il avait poursuivi les combattants d'Algérie française. Cette vacance du pouvoir, qui est donc très inquiétante, et qui prouve que du jour au lendemain, il peut très bien, l'autorité de l'État peut disparaître. Dans les temps que nous vivons. Cette vacance du pouvoir, comment l'expliquer ? Mais d'abord parce que De Gaulle n'a pas compris le mouvement. Il n'a pas compris le mouvement. Le mouvement étudiant, cela le dépassait. D'abord, De Gaulle n'a jamais été étudiant. Je ne le reproche pas. Mais enfin, il a fait une carrière militaire, il est entré à Saint-Cyr. Il n'avait jamais été dans une faculté, dans une université. Son père avait été professeur. Mais vous savez que les sentiments unissant le père et le fils n'étaient pas d'une très grande indulgence. Le père n'a donc pas eu beaucoup d'influence sur son fils. Donc De Gaulle n'a pas compris le mouvement étudiant. Il n'a pas compris parce que il n'avait jamais été étudiant et surtout parce que son esprit commençait à se scléroser. Il n'avait plus cette agilité machiavélique qui lui avait permis, en certaines circonstances, de dépasser les événements, de les dominer, d'imposer sa volonté, d'imposer son ambition. Il y a un phénomène de vieillissement, donc, chez lui. Il ne comprend plus ce qui se passe. Il ne voit plus l'époque dans laquelle il vit. Et puis surtout, le gouvernement gaulliste est un habitué des combats contre la droite, mais pas du tout contre la gauche. Vous comprenez, ça, c'est quand même l'explication essentielle. Rappelons l'histoire du gaullisme. 1945, quand même, c'est la libération. Bien sûr, les Allemands quittent la France. C'est dans un sens un événement très heureux. Mais vous savez que cette période a été aussi la période des représailles contre tous ceux qui avaient collaboré, mais aussi contre tous ceux dont on voulait se débarrasser, dont les gaullistes et les communistes voulaient se débarrasser. Il y a eu ce qu'on appelle l'épuration. Donc beaucoup d'honnêtes citoyens qui n'avaient jamais collaboré ont été enfermés dans les camps et un certain nombre ont été condamnés et fusillés. Le ministre de l'Intérieur de 1945 a annoncé lui-même à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il y avait eu 100 000 exécutions sans jugement. Vous pensez bien que ces 100 000 exécutés sans jugement n'étaient pas tous des collaborateurs. C'était des ennemis de classe. On a profité de cet événement de la libération pour... Les communistes ont voulu en profiter avec la complicité du pouvoir du général de Gaulle pour se débarrasser d'un certain nombre d'ennemis de classe, c'est-à-dire de gens comme vous et moi. Bon, alors il y a eu donc le premier combat du gaullisme contre la partie, disons, saine de la population, il faut bien le dire. Et puis alors, il y a eu ensuite l'épuration de l'armée et la répression contre les partisans de l'Algérie française à partir de 1960, environ. Répression qui s'est poursuivie jusqu'en 68, jusqu'à l'amnistie de 68. Il y a eu là 7 à 8 années de persécution très violente. D'abord, on a laissé exécuter ou fusiller tous les partis, c'est-à-dire tous les Algériens fidèles, ceux qui avaient suivi nos armes et notre drapeau. On les a laissés massacrer par les nouveaux maîtres de l'Algérie. Ensuite, on a traqué et poursuivi sans merci les officiers ou les civils qui avaient pris le parti de l'Algérie française. Ensuite, on a exécuté un certain nombre de ces partisans. Et vous savez tous que, par exemple, que le colonel Bastien Thiry a été fusillé. Puis un certain nombre de gens ont passé des années, de nombreuses années, dans les prisons du régime à ce moment-là. Des gens que je connais, qui étaient des gens de bien, qui n'avaient jamais d'ailleurs commis d'attentats de violence, mais qui avaient servi de boîte aux lettres au mouvement de l'OAS, ou qui avaient des affinités avec ce mouvement, ou qui avaient des sympathies pour ce mouvement, et ils ont été traduits en justice, poursuivis et emprisonnés. Alors, il y avait donc eu ce deuxième combat. Le gaullisme s'était donc signalé à deux reprises par ses combats contre, disons, la droite, la vraie droite française. Mais contre la gauche, jamais, ou pratiquement jamais. Il y avait eu évidemment des disputes politiques, mais il n'y avait jamais de combat de ce genre. Alors, devant un mouvement de gauche, le gouvernement gaulliste s'est senti complètement désemparé. Il n'a pas su comment faire. La présence des communistes à la tête de ce mouvement de mai 68 a contribué à créer un malaise chez les gaullistes. Car il faut bien dire qu'en plusieurs circonstances, les communistes avaient été les alliés objectifs des gaullistes. Et en particulier en 1945. Mais à nouveau d'ailleurs, à partir de 1960. À partir de 1960, il y a une complicité de fait, et reconnue d'ailleurs par les communistes aussi bien que par les gaullistes, entre les deux mouvements, pour écraser les partisans de l'Algérie française. Alors vous comprenez, quand les communistes se mettent à la tête d'un mouvement de contestation contre le pouvoir, alors à ce moment-là, le pouvoir est tout à fait désemparé. C'est la vieille alliance qui est rompue. C'est la vieille complicité qui est rompue. On sait d'ailleurs que si le mouvement de mai 68 s'est arrêté finalement sans trop de dommages pour le pouvoir gaulliste, c'est parce que les communistes l'ont finalement pris en main dépassant les anarchistes, les mouvements du 22 mars, remettant de l'ordre et finalement négociant avec le pouvoir. D'ailleurs, le pouvoir gaulliste n'a pas cessé de négocier avec les communistes pendant toute la crise. Et qui était l'émissaire qui servait de lien entre les gaullistes et les communistes? Philippe Alexandre, le journaliste fameux, l'a raconté dans un livre. L'émissaire, c'était Jacques Chirac, qui avait des rendez-vous clandestins avec les militants communistes, de façon à négocier avec eux une reprise de la situation normale, une reprise de l'ordre, de conditions normales. Et Chirac allait attendre sur des bancs de soie, sur les 6 à 7 heures du soir, il allait attendre les émissaires du Parti communiste. Il a joué là un rôle très important, et sa carrière politique est en partie due à ses services qu'il a rendus à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a eu ce désarroi des gaullistes devant l'agression violente d'un pouvoir de gauche. Agression qui n'avait pas été concertée par les organisations de gauche, mais qui a été déterminée, en somme, par la révolte étudiante, l'imprévisible révolte étudiante. Alors les organisations de gauche se sont dit, on peut en profiter pour prendre le pouvoir. Il vaut peut-être mieux avoir le pouvoir que d'en être complice. Alors les communistes ont à un moment fait ce calcul, puis ils ont jugé sans doute à partir d'un certain moment qu'il valait mieux continuer à avoir De Gaulle et ses séides. C'est peut-être ce qui s'est passé. Cependant, il reste quelque chose à expliquer. C'est l'escalade. L'escalade. Que l'on soit passé de la révolte étudiante à la grève générale, et de la grève générale à la vacance du pouvoir. Vous voyez, nous pouvons expliquer ces étapes successives. Nous pouvons donner des explications pour chacun de ces mouvements. Mais ce qui est très difficile d'expliquer, c'est ce phénomène d'escalade. On peut sans doute invoquer l'influence et le succès extraordinaire de l'idéologie 68A. Mais qu'est-ce que c'est que cette idéologie? On dit toujours le 68-ardisme, l'idéologie 68-arde. On en parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange hétéroclite d'utopie et d'idées forces révolutionnaires. Rejet de la société de consommation. D'abord, ça joue un rôle très important. On en a assez. On a trop de voitures, trop de frigos, trop d'argent, trop de constructions nouvelles, trop de loisirs, trop d'essence, tout ça. Non, il y a dans la jeunesse certainement un refus inconscient de cette trop grande prospérité matérielle qui menace en quelque sorte son être. Et je pense qu'il ne faut pas rejeter complètement cette explication-là. Il y a quelque chose de sain malgré tout au départ dans ce mouvement de rejet, dans cette réaction. Je ne sais pas, parce que moi je n'étais pas beaucoup plus vieux à cette époque-là que cette génération. Enfin, voyez-vous, j'avais la trentaine. Donc j'étais assez proche des étudiants qui manifestaient. Et j'ai senti cela. Et je me souviens même avoir donné au journal Carrefour, qui était un hebdomadaire, un article dans les tout débuts, dans lequel... ai-je gardé cet article? Sans doute non. Dans lequel je manifestais une certaine sympathie à l'égard de ce mouvement qui commençait. Certaines sympathies, pas entières bien sûr, mais certaines sympathies. Bon, donc refus de la société de consommation. Refus de toute autorité. Pourquoi? Parce que l'autorité a trahi. L'autorité a trahi, elle n'a pas assumé ses responsabilités. Elle a trahi la jeunesse. Elle a trahi l'espérance. Alors il y a aussi ce sentiment, on se révolte contre l'autorité parce qu'elle est l'autorité, mais surtout parce que l'autorité n'a pas rempli sa mission. Et c'est très net dans l'université. Il y a une protestation chez beaucoup de jeunes universitaires contre le mandarinat. Le mandarinat, c'est-à-dire la domination sans partage, exercée par les vieux professeurs, les